Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Julien Cellier, bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. C'est parti pour 2 heures d'infos, 2 heures d'actu avec vous et à la une, ce gouvernement qui se fait attendre, suspense interminable. On va prendre le temps, dit Emmanuel Macron. On veut la meilleure équipe, explique Elisabeth Borne. La première ministre bien seule pour le moment, mais déjà sur le terrain, déplacement en banlieue parisienne cet après-midi. Les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Cette information qu'RTL vous révélez à la mi-journée. Un homme d'une cinquantaine d'années activement recherché en France et en Europe. Il est suspecté du meurtre de sa fille de 10 ans la semaine dernière en Haute-Savoie. Dans ce journal aussi, le défi d'Amnesty International à 6 mois du début du mondial que Kylian Mbappé et les joueurs de l'équipe de France s'engagent sur le sort des travailleurs immigrés au Qatar. Et puis des cas en Suède, en Italie. Qu'est-ce que c'est que cette variole du singe détectée dans plusieurs pays d'Europe? On va tout vous expliquer dans ce journal. Et puis les courses en nocturne ce soir à Longchamp. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 14, le 12, le 11, le 9, le 15, le 16 et le 6.
Dans un quart d'heure, le danger du porno pour nos ados. Porno en libre service quasiment. Nouvelle défaite en justice des associations de protection de l'enfance. La brigade RTL a enquêté devant un collège. Les témoignages sont sidérants et nos invités de 18h15 seront Nikita Bellucci, actrice X, et Thomas Romer de l'Observatoire de la parentalité. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de la pénurie de lait infantile aux États-Unis. Et oui, Joe Biden organise même un pont aérien. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Ce soir, vous allez comprendre pourquoi Johnny Depp et Amber Heard ont choisi de faire de leur procès trash une véritable télé-réalité. Au menu également, un candidat RN aux législatives pas très habile et du ski sur des épines de pin.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes, et puis la chaleur deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance pour demain?
Vous l'avez dit, chaleur, surtout dans le sud, avec du soleil et orageux au nord.
A tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Au moins, ils sont raccord. Président et Première ministre, aujourd'hui, les deux têtes de l'exécutif ont joué le calme, la sérénité concernant le futur gouvernement.
Et tous deux assument de prendre le temps qu'il faut pour constituer leur équipe, à l'image tout à l'heure d'Emmanuel Macron.
Mais bien sûr, le travail continue de manière sérieuse, mais ce n'est pas une chose légère. Elle requiert du temps, des échanges de fonds, et c'est ce que la Première ministre et moi-même faisons. Autant de temps qu'utile et que nécessaire, car il s'agit du gouvernement de la France.
Bonsoir Thomas Desprez.
Bonsoir Marion.
À peu de choses près, hein, c'est aussi ce qu'a dit Elisabeth Borne cet après-midi.
Absolument, la Première ministre qui faisait son premier déplacement sur le terrain dans les Yvelines, et elle dit « on ne va pas se mettre la pression, on veut la meilleure équipe, les meilleurs talents ». Et quand on lui demande si c'est pour aujourd'hui ou demain, elle répond « vous verrez ». Bref, comme Emmanuel Macron, elle n'est pas pressée. Alors pendant un temps, dans les cabinets, on évoquait un remaniement d'ici demain, vendredi, mais c'est maintenant la date de dimanche ou de lundi qui revient. Bref, on va devoir attendre encore un peu.
Alors, pas de gouvernement, mais donc déjà ce premier déplacement au Mureau en banlieue parisienne, Thomas, consacré pour Elisabeth Borne à l'égalité.
Oui, à l'égalité des chances des jeunes filles et des jeunes femmes, plus précisément. Un déplacement dans la lignée de son discours de passation de pouvoir avec Jean Castex. Vous vous souvenez, elle avait parlé des rêves de petites filles. Eh bien, cet après-midi, le message n'a pas changé.
Bonjour Madame la Première Ministre, j'aurais une question pour vous. Pourquoi avez-vous envie de devenir Première Ministre, et comment fait-on pour le devenir?
Comment on devient Première Ministre? J'ai pas forcément la recette. Je pense que c'est important d'avoir des rêves et il faut se dire qu'on va y arriver. Il faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent ce métier-là ou cette voie, elle est pas faite pour toi. Il faut aller au bout de ses rêves.
Voilà, aller au bout de ses rêves. Et ce n'est pas qu'une chanson, hein, la Première Ministre qui s'est aussi fait offrir un sifflet et des cartons rouges. Un sifflet et des cartons rouges pour Elisabeth Borne. Deux accessoires qui lui seront peut-être utiles pour gérer le gouvernement. Enfin, quand il sera en place.
Récit du premier déplacement d'Elisabeth Borne, signé Thomas Desprez pour RTL.
Il a été le plus jeune député de France. Il est aujourd'hui celui qui est élu depuis le plus longtemps à l'Assemblée. Depuis 1997, 5 mandats consécutifs. Et depuis 1997, 1997, Mediapart le révèle aujourd'hui, le député socialiste charentais Jérôme Lambert bénéficie à Paris d'un logement social auquel il ne pourrait pas prétendre normalement compte tenu de ses revenus, à Valentin Boisset.
Oui, un 5 pièces de 95 mètres carrés en plein Paris, le tout pour 971 euros par mois. C'est ce dont bénéficie donc le plus ancien député de France. Pour rappel, le salaire d'un député est aujourd'hui de 5 679 euros net. Alors comment est-ce possible d'avoir un logement social avec ce type de revenu? Eh bien depuis 1997, Jérôme Lambert affirme qu'il n'a jamais eu à actualiser ses revenus auprès de Paris Habitat, le bailleur. Légalement, rien ne l'oblige à quitter ce logement, mais la situation indigne aujourd'hui. Je l'ai contacté, il affirme que rien n'était légal, ni même immoral.
Alors, c'était pas illégal. Il pouvait louer un ALM à des députés. Le prix de l'immobilier, il a flambé à Paris. Et moi, comme j'ai un loyer qui avait été fixé il y a 25 ans, qui a peu évolué depuis 25 ans, parce que c'est le coût de la construction, je tiens simplement à dire qu'il n'y a rien d'illégal à tout ça.
C'est peut-être pas illégal, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que c'est immoral?
Là, regardez ma déclaration de patrimoine. J'ai 300 000 euros. Très franchement, c'est pas immoral. Je vous dis, arrêtez les conneries les uns les autres.
Voilà, manifestement agacé, Jérôme Lambert est actuellement candidat à un huitième mandat.
Explication signée Valentin Boisset pour RTL.
RTL, vous le révélez à la mi-journée. Un mandat d'arrêt international vient d'être émis après le meurtre d'une petite fille de 10 ans la semaine passée en Haute-Savoie.
Et celui que la police recherche, c'est son père, âgé d'une cinquantaine d'années. Thomas Proutot, l'homme est considéré comme potentiellement dangereux.
Ah oui, en effet, car le quinquagénaire pratique le tir sportif et son arme n'a pas été retrouvée, d'après une information de RTL. Ce que craignent les enquêteurs, c'est une réaction impulsive ou un geste désespéré. Précisons que cet homme n'a aucun antécédent de violence et une source judiciaire évoque une famille jusqu'ici tout à fait ordinaire installée dans une grande maison dans la petite ville de Végy-Foncenay au bord du lac Léman. Le père est marchand de biens. Il y a trois enfants de 10, 18 et 20 ans. Alors bien entendu, il faut être prudent avec ce type d'informations. On est au tout début de l'enquête. Ce que l'on sait, c'est que le père avait la garde de la Benjamine en l'absence de la mère. Le couple était en instance de séparation. Il a été vu en train de quitter la maison par des voisins quelques heures avant la découverte de la petite fille par son grand frère. Il a depuis éteint son téléphone et disparu. L'autopsie a révélé une mort par asphyxie mécanique provoquée par un tiers. Autrement dit, un meurtre par étouffement ou étranglement. Le père, activement recherché par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry, reste, c'est important de le souligner, présumé innocent.
Information signée Thomas Proutot pour RTL. Dans l'affaire Omar Radar, là, la justice a décidé finalement de fixer une nouvelle audience le 15 septembre prochain pour examiner les derniers éléments présentés par la défense du jardinier, condamné en 1994 pour le meurtre d'une milliardaire à Mougins. Près de 40 jours que ça dure et ces températures encore aujourd'hui supérieures aux normales de saison font craindre désormais le pire aux maraîchers et aux primeurs.
Avec pour les producteurs de fraises des pertes entre 20 et 30% redoutées et pour ceux qui les vendent des produits difficile à conserver, comme a pu le constater à Marseille Romane Frachon pour RTL.
Kamel est fournisseur maraîcher à Marseille depuis 15 ans sur le marché de la Plaine. Mais il n'arrive plus à vendre de fraises parce qu'avec les 30 degrés affichés, elles fondent sur son étal. Il avoue n'avoir jamais vu cela.
Regardez madame, comment il coule. Dommage, il n'y a pas la caméra, regardez comment ça coule. Elle est pas bonne.
Eh oui, c'est du jus de fraise.
On peut vendre du jus de fraise à les snacks, les restaurants qui fait du jus. Avec la chaleur là, le soir on le donne à les profs.
En revanche, pour les abricots et les cerises, c'est une bonne nouvelle. Ils n'ont jamais été aussi beaux, selon Nader, vendeur d'un petit primeur sur le Vieux-Port.
Les abricots, surtout les abricots, c'est les meilleurs. L'année dernière, patiente, il a plu. Ça gâchait la saison des cerises, et malheureusement.
Donc certes, les fruits sont plus sucrés que l'année dernière, mais c'est avant tout lié au dérèglement climatique.
Un reportage signé Romane Frachon pour RTL.
Et pendant ce temps, au Brésil, on grelotte. 1,4 degré enregistré à Brasilia aujourd'hui. Température la plus froide de l'histoire de la capitale. Météo inhabituelle qui inquiète les autorités, là aussi, pour les cultures, notamment les récoltes de maïs ou de canne à sucre.
Allez, une petite pause et dans un instant, dans ce journal, Amnesty International en appelle à Kylian Mbappé au sujet du Mondial 2022, tant critiqué au Qatar. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, bonne fin de journée, votre journal se poursuit dans RTL Soir. Il a bien boudé la junk food et les paris sportifs avec les Bleus. pourquoi Kylian Mbappé ne prendrait pas position contre le Qatar, son employeur et organisateur critiqué du Mondial 2022.
Le Qatar où 6500 personnes seraient mortes sur les chantiers liés à la compétition d'après le journal britannique Le Guardian. Aujourd'hui donc, Amnesty International en a appelé aux joueurs français pour qu'ils s'engagent. Lola Schulman y est chargée du plaidoyer.
Amnesty souhaite interpeller l'ensemble des joueurs de l'équipe de France, dont Kylian Mbappé, puisqu'il se rendra directement au Qatar pour la Coupe du Monde et va bénéficier de l'ensemble des infrastructures qui sont en place. Et donc pour nous, c'est essentiel aujourd'hui que les Bleus et les joueurs de l'équipe de France prennent position publiquement pour dénoncer ces situations-là, pour faire connaître aussi ces situations et dire qu'ils en ont connaissance et que c'est important qu'ils fassent ce rôle d'alerte de l'opinion publique.
Lola Schulman, plaidoyer, chargée de plaidoyer à Amnesty International, jointe par Sophie Jousselin pour RTL et d'ores et déjà Didier Deschamps a laissé le champ libre à ses joueurs, ils sont libres de s'exprimer, a dit le sélectionneur.
Didier Deschamps qui a convoqué pour la première fois pour les matchs de la Ligue des Nations en juin l'excellent Marseillais Boubacar Camara. En revanche, Olivier Giroud et Paul Pogba ne font pas partie du groupe.
Voilà enfin un mot et une maladie pas franchement rassurant et dont on parle de plus en plus ces derniers jours en Europe, la variole du singe avec plusieurs cas signalés. Vous allez nous expliquer, bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Ces cas d'abord, ils ont été détectés où ?
Alors en Grande-Bretagne, quelques cas au Portugal, un en Italie, pas en France. C'est une maladie qui est connue en Afrique centrale. Il y a un millier de cas par an. Ce qui intrigue les scientifiques, c'est qu'en Grande-Bretagne, le premier cas a touché une personne revenue du Nigeria, mais les autres malades auraient été contaminés sur le sol britannique. Ça, c'est inédit.
Et alors, comment elle se transmet, justement, cette maladie ?
Alors, la transmission du monkeypox virus, c'est un peu compliqué. On l'appelle comme ça parce qu'il a été découvert chez des singes, mais il touche d'autres mammifères. Donc, cette transmission est rare, mais quand elle arrive, c'est surtout par contact, en touchant les habits d'un malade, par la salive, les relations sexuelles. Alors, il donne de la fièvre, mal à la tête et des courbatures.
Mais c'est grave, docteur, est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Dans 99% des cas, non. Mais il y a des décès, surtout chez les jeunes enfants malnutris en Afrique ou immunodéprimés. Il n'y a pas de médicaments spécifiques, mais ce virus est un cousin de la variole, donc on pourrait le prévenir avec le vaccin contre la variole. Mais ce vaccin, on l'a arrêté il y a 40 ans, justement. La variole du singe touche des personnes de moins de 40 ans. India Leclerc est virologue à l'Institut Pasteur.
Les gens ne sont plus vaccinés contre la variole depuis 1980. Et d'ailleurs, ce serait un des facteurs d'émergence du monkeypox virus. On pourrait avoir en fait une baisse de l'immunité chez les jeunes qui n'ont pas reçu la vaccination contre la variole. Mais il s'agit généralement d'une maladie bénigne. Hein, et la plupart des personnes en fait se rétablissent en quelques semaines.
Voilà, les spécialistes surveillent ce virus, mais pour l'instant, vous voyez, ils ne sont pas très inquiets.
En quelques semaines
aurait quand même de quoi se prémunir.
Bon, il faut ressortir les stocks de vaccins.
On pourrait ressortir le vaccin de la variole et les médicaments contre la variole.
Explication signée Virginie Garin. Merci Virginie.
C'est un couple enfin que je voulais vous présenter ce soir. Ils s'appellent Joey et Jess Thwaite. Ils sont britanniques et ce sont eux qui ont décroché le jackpot à l'Euromillion la semaine dernière. Vous savez Julien, les 217 millions d'euros qui vous sont passés sous le nez. Et ben voilà, ils sont présentés aujourd'hui à la télé britannique. Ils sont sortis en direct de l'anonymat.
Just check my emails and the weather is the normal one for me. I had an email saying that I'd won a prize. Took it as the usual.
Voilà Joe Thwaite qui raconte avoir découvert être le vainqueur en ouvrant un mail, ne pas avoir voulu réveiller sa femme et se disant évidemment heureux alors que le couple et leurs deux enfants connaissent en ce moment de grosses difficultés financières.
Je ne citerai personne, mais dans les couloirs de la rédaction, certains s'interrogent que les Anglais puissent toujours jouer à l'Euromillion malgré le Brexit. Merci beaucoup Marion Calais, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, toujours aussi chaud ?
Toujours aussi chaud au sud et orageux au nord. C'est le même type de temps en fait que ce qu'on a eu aujourd'hui avec des averses orageuses plus marquées et parfois accompagné de grêle dès le matin entre les pays de la Loire et le Nord, des orages qui vont se décaler vers l'Est dès la mi-journée, avec de fortes rafales dans l'après-midi et gagner le Grand Est en soirée. Avant et après les pluies, on aura des éclaircies, et puis dans la partie sud, ce sera du beau temps avec un ciel légèrement voilé sur l'Ouest. Le vent de temps sera encore bien présent vers l'Occitanie, ça soufflera aussi vers la vallée du Rhône et les températures, elles seront toujours aussi douces le matin, les maximales de 17 au Havre, il y a peu de changements, hein. À 34 degrés à Montauban, ça grimpe encore dans le sud-ouest et également, ça reste très chaud dans l'Est. 34 également à Mulhouse, 33 à Perpignan, c'est 9 degrés de plus qu'aujourd'hui. 32 à Lyon, 30 à Bourges et Marseille, 28 à Bastia et Cognac, 24 à Paris et 23 au Mans.
Merci Peggy. Dans un instant, on va s'intéresser à un sujet délicat dont on parle parfois difficilement dans les familles, le danger du porno pour nos adolescents, porno en libre service quasiment pour les mineurs. Nouvelle défaite en justice des associations de protection de l'enfance. La brigade RTL a rencontré cet après-midi des collégiens. Témoignage sidérant, vous allez l'entendre. Et puis nos invités seront Nikita Bellucci, actrice X, et Thomas Romer de l'Observatoire de la parentalité. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée. RTL Soir se penche maintenant sur un sujet délicat, compliqué parfois à aborder en famille, l'accès des mineurs à la pornographie. À l'âge de 12 ans, un ado sur trois a déjà été exposé à des contenus X et aujourd'hui, les associations de protection de l'enfance ont perdu une bataille. Elles demandaient à Orange, à SFR, à Free, à Bouygues de faire le ménage en quelque sorte sur Internet, mais la justice a rejeté en appel le blocage de 9 sites porno. Deux invités avec nous, Nikita Bellucci, actrice et réalisatrice de films X, bonsoir.
Bonsoir.
Et Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Bonsoir.
Bonsoir.
Les associations tentent, on l'a compris, et c'est compliqué de faire appliquer la loi. Depuis 2020, les sites porno doivent installer un vrai système de vérification de l'âge. Or, ils s'en moquent, d'autant qu'ils sont souvent basés à l'étranger. Avant d'échanger ensemble, on va justement, si vous le voulez bien, entendre des mineurs. Parce que la brigade RTL a enquêté. Bonsoir Nicolas Burnan.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous avez rencontré des collégiens, des lycéens pour RTL et en deux clics à 13-14 ans, ils ont accès à la pornographie.
Oui, à la sortie de cet établissement parisien, tous les garçons que j'ai interrogés ont déjà consulté un site pornographique. Des filles aussi, parfois. C'est un jeu d'enfant, raconte Nathan, 14 ans, avec son téléphone portable.
Il faut juste aller dans Safari ou dans Google et tu tapes dans la barre de recherche le site qu'on veut. Cliquer comme quand on avait plus de 18 ans, mais il vérifie rien. Tout le monde peut y accéder, qu'on soit majeur ou mineur.
L'accès est libre, illimité et gratuit, vidéo après vidéo. Will avoue qu'une addiction s'installe très vite.
C'est un peu comme la drogue. Ça fait plaisir une fois, on réessaye deux fois. À un moment, ça devient une routine. Par jour, on va dire deux fois, trois fois, qu'on va forcément s'exciter sur un type de femme. Dans la vraie vie, on va dire les termes. Hein. On va arrêter de bander devant une meuf parce qu'elle ne ressemble pas à la meuf qu'on a vue en vidéo, etc.
On entend ces témoignages très, très crus d'ado, Thomas Remer. Un système efficace de vérification d'âge, ce serait quoi ? Le système idéal.
C'est justement la question qui est posée au site internet dans la modification de la loi du 30 juillet. Enfin, on a contribué à l'établissement de cette modification du code pénal. Et l'intelligence de la posture de la France, c'est de faire reposer la pression sur les sites internet et non pas à l'État de français de dire quel serait un bon vérificateur d'âge. Donc je dirais que la balle est dans leur camp. Ça pourrait être, pourquoi pas, qu'ils deviennent tous payants. Après tout, pourquoi est-ce que le porno serait non payant ? C'est eux qui ont instauré ce modèle économique, c'est à eux d'en assumer la responsabilité.
Nicolas Burnan, je reviens vers vous parce que vous l'avez constaté avec ces jeunes cet après-midi. Regarder des films X quand on est ado, ce n'est pas sans conséquence. Hein.
Absolument, certains adolescents expliquent que la consultation de ces vidéos modifie l'image qu'ils se font de l'homme et de la femme, mais a surtout un impact sur leur sexualité. Nadia, 18 ans, l'a remarqué à travers les demandes de ses partenaires.
Ça c'est cool, j'ai vu ça dans une vidéo, machin, ça c'est terminé. Parce que c'est souvent sale, c'est souvent des mises en scène qui sont fausses, qui représentent pas du tout la réalité. Ça traite la femme comme un objet. Comme si c'était que pour ça, c'est dénigrant de ouf.
Pour ces jeunes, il n'est pas toujours simple de faire la différence entre ce qui révèle de la fiction ou de la réalité. Alors dans sa famille, Samuel en parle régulièrement avec ses parents.
Ça sert à rien de vouloir brimer forcément les adolescents, quoi, parce qu'on sait que dans tous les cas, ils iront. Bah, autant les accompagner là-dedans, sans tabou. Ça permet d'avoir un regard plus objectif, avoir plus de recul et de pas forcément se dire ah oui c'est la réalité, que c'est plus des fantasmes masculins qui sont traduits sur des scénarios ou des films quoi, parce qu'on comprend plus ce qu'on voit.
Ces discussions ont également lieu, assure l'adolescent, à l'intérieur de son collège, à l'occasion de séances d'éducation à la sexualité.
Merci Nicolas. Nikita Bellucci, je reviens vers vous. Vous êtes actrice et réalisatrice, j'imagine que ces témoignages d'adolescents ne vous surprennent pas vraiment.
Non, ça me surprend pas. Par contre, la première vision d'un film pornographique, selon les études, c'est 12 ans, 14 ans, c'est beaucoup plus tôt que ça dans les faits. Ensuite, il n'y a même pas besoin de rentrer dans un site porno pour regarder de la pornographie. Il suffit simplement, par exemple, d'aller sur Twitter, Twitter qui est absolument pas modéré. Vous avez les pires contenus qui soient sur ce réseau social. Voilà, en fait, il y a une accessibilité du porno partout. Donc moi, ça ne me surprend pas du tout. Non.
Thomas Romer, c'est vrai qu'il y a une bataille judiciaire. D'ailleurs, le CSA, désormais Arcom, va demander lui aussi le blocage de certains sites. Il y aura une audience là aussi devant la justice la semaine prochaine. Mais comme le dit Nikita Bellucci, la bataille, elle est presque perdue d'avance parce que le porno, il est partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les messageries.
Oui, alors l'audience qui a lieu dans deux jours, on en est aussi à l'origine parce que c'est nous qui avons saisi l'Arcom à ce niveau-là. Et ça fait maintenant 18 mois qu'on attend enfin et on espère avoir une réponse. Oui, aujourd'hui, ces contenus sont accessibles partout, mais on voit bien que la nécessité, elle repose à la fois sur une vérification d'âge et puis vérifier l'accessibilité, un peu comme on le fait déjà dans des endroits type sex shop, etc. Ça, ouais. Ça choque personne qu'on demande une pièce d'identité quand
on a un
doute.
À l'entrée d'un sex shop,
voilà, exactement. Bah, et oui. Pourtant, quand nous on réclame une vérification d'âge, on nous dit attention aux collègues des données, attention ceci, attention cela. Oui, bien sûr, il faut respecter certaines libertés individuelles, mais je pense que c'est un débat de société qu'on doit avoir tous ensemble. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, la régulation des plateformes, et c'est aussi vrai pour les réseaux sociaux, ça ne pourra pas se faire sans que l'on perde un peu certaines de nos libertés. Mais est-ce que la protection de l'enfance en vaut le coup? C'est un débat de société qu'on doit avoir.
Nikita Bellucci, on parlait du danger sur les adolescents. Vous avez porté plainte il y a plusieurs mois parce que vous avez été harcelé en ligne, menacé de mort même, y compris par des mineurs, c'est bien ça?
Oui, en fait, c'était suite à justement une publication que j'avais faite parce que des mineurs m'écrivaient. Et j'essayais en fait d'interpeller les parents en leur expliquant qu'il faudrait peut-être faire attention à ce que font leurs enfants sur Internet, parce que donner un téléphone c'est bien, ou pas, mais le protéger, avoir des discussions avec l'enfant pour éviter justement ce genre de débordement, ce serait peut-être mieux. Et donc suite à ça, moi je me suis reçu une menace de mort, de viol, etc. J'ai porté plainte, une personne est du coup partie en prison.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites qu'il faut instaurer un dialogue avec les parents. On parlait aussi à l'instant avec Nicolas Burnand des cours sur la sexualité dans les établissements scolaires. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il faut quelque part aussi briser le tabou, oser parler de la sexualité à nos jeunes?
Il est vrai qu'aujourd'hui, nous, quand on s'est intéressé au sujet il y a plus de 7 ans avec les études qu'on avait faites, on s'est rendu compte qu'on était aussi face à un enjeu éducatif. Et vous avez raison, c'est un enjeu majeur. Après ça, j'aime pas montrer du doigt des responsabilités. En revanche, le constat, il est assez simple. Ça fait 30 ans en France qu'on se trompe sur la manière de faire de l'éducation sexuelle, qu'on continue d'ailleurs à appeler éducation sexuelle et affective, ce qui est complètement gnangnan à l'heure où des gamins regardent des scènes de sodomie dans les toilettes de leur collège. Donc, il faudrait peut-être aussi qu'on adapte les contenus, l'approche, la pédagogie, et puis surtout qu'on fasse appliquer la loi. Parce que l'exemple que vous donniez dans votre reportage, malheureusement, moi, c'est pas ce que je vois sur le terrain. Il n'y a pas autant de ça de séquences qui se passent dans les établissements scolaires alors que c'est inscrit dans la loi.
Vous partagez ce constat, c'est un vrai enjeu éducatif aujourd'hui, Nikita Bellucci?
Oui, et je pense qu'il est important aussi d'avoir ce genre de discussion dans la sphère familiale. Et peut-être donner également les outils aux parents pour aborder ce genre de sujet, parce que c'est pas facile non plus pour tout le monde, mais il faut bien comprendre que ça devient vraiment 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 urgent, parce que quand vous avez des préadolescents en école primaire qui regardent du contenu hard, c'est pas possible. En fait, on connaît les répercussions que ça a sur eux, quoi, sur leur construction.
Est-ce qu'il faut aussi, Nikita Bellucci, puisque vous êtes réalisatrice, changer en quelque sorte le porno, peut-être davantage l'encadrer, donner davantage de statut aux acteurs, aux actrices? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur le cadre en quelque sorte du porno?
J'ai pas forcément envie de modifier mes réalisations. Demain, je peux réaliser des scènes très très hard. Mon contenu, il est fait pour des adultes, par des adultes. Voilà, moi je sais en tout cas que j'essaie au maximum sur mes réseaux sociaux de faire un peu de prévention, ne rien publier sur mes réseaux sociaux qui est explicite.
C'est sur l'accès qu'il faut travailler,
tout le monde.
C'est ce que vous nous dites.
Exactement. Exactement.
Merci Nikita Bellucci, actrice, réalisatrice, productrice, d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL. Merci à vous Thomas Romer de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce dossier de l'accès des mineurs à la pornographie. Merci.
Cette interview est à retrouver sur rtl.fr.
Et RTL Soir continue dans quelques secondes avec tout autre chose, vos dessous de l'actu, les dessous de la pénurie de lait infantile aux États-Unis. Oui, oui, un pont aérien est même organisé pour nourrir les bébés américains. Et puis laissez-vous tenter, dernière vous emmène à l'opéra, tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée RTL Soir, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Si vous nous rejoignez, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité de la soirée.
Prendre le temps, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron refusent de céder à la précipitation pour constituer le gouvernement. La première ministre en déplacement au Mureaux a dit vouloir constituer la meilleure équipe. Peine maximale, prison à vie requise à Kiev à l'encontre du soldat russe accusé d'avoir abattu un civil. Il a demandé pardon à sa famille ce matin, expliquant avoir obéi à un ordre. La sélection de Didier Deschamps pour les matchs des Bleus le mois prochain en Ligue des Nations. Première convocation pour le Marseillais Camara. En revanche, Pogba et Giroud n'ont pas été retenus.
Merci Marion. Le temps pour demain, chaleur toujours, Peggy.
Chaleur toujours et orage toujours au nord. Nouvelle dégradation orageuse avec des orages plus marqués sur le nord, de la grêle également. Ça va circuler d'ouest en est, de fortes rafales l'après-midi. Une fois passé, on trouvera des éclaircies. Il fera beau sur la moitié sud. Le tout sous des températures encore élevées. De 17 à 21 près de la Manche, là c'est de saison. 24 à Paris et à Nantes, 27 à Bordeaux, 28 à Nîmes, 30 à Marseille, 32 à Lyon et jusqu'à 34 degrés à Mulhouse et Montauban.
Merci Peggy.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir de la pénurie de lait infantile aux États-Unis. Oui, oui, pénurie de lait infantile aux États-Unis. Joe Biden annonce un pont aérien et le recours à une loi qui date de la guerre froide avec cet objectif, nourrir les bébés américains. Ça paraît complètement dingue. Bonsoir Karine Auton.
Bonsoir Julien.
Vous êtes à New York pour RTL. Il y a vraiment une pénurie? Il n'y a plus de lait dans les rayons?
Les étagères sont en tout cas bien clairsemées. Hein. 43% des marques de lait infantile sont en rupture de stock à travers tout le pays, le plus puissant des pays développés. Vous imaginez facilement le stress des jeunes parents de ne pas trouver la marque de lait acceptée par leurs nourrissons, de voir leurs réserves se réduire. Sur les réseaux sociaux, on voit des systèmes d'entraide se mettre en place. On se partage les adresses de pharmacies qui ont encore du stock. On offre des échantillons retrouvés dans les placards. Et puis, les pédiatres sont obligés aussi de sonner l'alarme. Ils ne recommandent pas, par exemple, d'utiliser du lait maternel congelé offert par d'autres mamans. Et surtout, ils mettent en garde contre un tuto YouTube qui reprend une vieille recette des années 50 pour faire son lait soi-même. Tout ça montre bien à quel point certains parents sont désespérés. Dans des circonstances particulières, quelques enfants ont même dû être hospitalisés. On a vraiment atteint un niveau d'urgence nationale.
C'est incroyable. Pourquoi cette pénurie ?
Eh bien, les chaînes d'approvisionnement ont ralenti vraiment hein, depuis la pandémie. Elles manquent de main-d'œuvre. Mais en plus, le principal fabricant de lait pour bébé ici, le laboratoire Abbott, a dû fermer une de ses usines en février, hein, puisque après des soupçons d'infection bactérienne et la mort de deux nourrissons. Et ça a eu cet impact-là sur la production.
Et donc, le pont aérien, là, il doit résoudre la situation. Quand on dit pont aérien, qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Alors, Joe Biden n'envoie pas encore d'avion militaire chercher du lait en poudre, mais presque. En lançant l'opération Fly Formula hier, Formula, ça veut dire lait en poudre ici, il demande en fait au ministère de la Défense d'utiliser ses contrats avec des compagnies aériennes commerciales pour transporter des ingrédients de qualité importés de l'étranger. Le président américain va aussi obliger les producteurs qui vont récupérer ces ingrédients à fabriquer le lait pour bébé en priorité dans leurs usines. Et ça, c'est effectivement un dispositif qui avait été créé pendant la guerre froide et qui avait été utilisé tout au début de la pandémie lorsqu'il s'agissait de produire des masques, etc. Et puis par ailleurs, Nestlé s'est aussi engagé à acheminer du lait hypoallergénique par avion depuis la Suisse et les Pays-Bas. Ça concerne les nourrissons qui ne supportent pas la protéine de lait de vache et qui ont besoin de ces poudres spéciales. Par avion donc, et non par bateau, pour pouvoir gagner du temps toujours, le temps que l'usine Abbott, qui a été dédouanée de ses soupçons, redémarre et réapprovisionne les chaînes de production correctement.
Incroyable les dessous de cette pénurie de lait infantile aux États-Unis. Aux États-Unis avec notre correspondante à New York, Karine Auton. Merci beaucoup, Karine.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et les bonnes idées, effectivement, comme tous les soirs à cette heure-ci de la bande de Laissez-vous tenter. Julia Molcou est avec nous en studio. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et vous nous proposez un concert ce soir. Vous nous emmenez à l'Opéra National de Bordeaux pour une trilogie de Mozart.
C'est très sérieux. En effet, entre 1786 et 1790, Mozart a écrit trois chefs-d'œuvre qui peuvent se voir en une unique et longue épopée. D'abord, il y a Chérubin, l'adolescent qui découvre l'amour dans Les Noces de Figaro. Chérubin qui ne va pas tarder à devenir insatiable et séducteur, Don Juan dans Don Giovanni, avant que les années ne lui donnent les traits d'Alfonso, le vieux philosophe, dans Così fan tutte. Et ce sont donc ces trois œuvres-là qui vous sont proposées à l'Opéra National de Bordeaux dès demain soir, et qui est un peu comme comme pour une série, vous sont même proposés à la suite. Un épisode concert par soir.
Et sur scène alors, ça donne quoi cette série, cette trilogie ?
Eh ben ça donne un univers commun, comme dans une série, avec un décor qui simplement se transforme un peu et un costume qui s'assombrit pour notre éternel libertin de pièce en pièce. Et je tiens quand même à vous faire remarquer que c'est le même chanteur qui incarne Don Juan et Don Alfonso.
Donc on peut enchaîner les trois œuvres trois soirs de suite.
Ouais, je vous dis comme pour une série. Le mercredi, série. Vous voyez le premier épisode, Les Noces de Figaro. Le jeudi, vous faites le deuxième avec Don Juan. Et le vendredi, vous allez voir Così fan tutte, du binge watching listening version opéra de Mozart. Trilogie de Mozart à l'Opéra National de Bordeaux, dont la mise en scène est signée Yvan Alexandre et la direction musicale Marc Minkowski, commence demain et se jouera jusqu'au 6 juin.
J'aime beaucoup le concept de la série à l'Opéra.
C'est génial.
Où ça vaut 10% ou les Peaky Blinders. C'est très bien, Mozart. Merci beaucoup, Julien Molcou. On vous retrouve demain
à
pour
demain.
De nouveaux conseils dans Laissez-vous tenter dernière. Dans un instant, on va défaire le monde. On va défaire le procès qui passionne l'Amérique.
Oh là là.
Johnny Depp, Amber Heard, l'ex-couple se déchire en mondiovision. Tout est filmé et avec un tel déballage, pas sûr que Johnny Depp puisse retrouver un rôle même de figurant dans Pirates des Caraïbes. L'équipe dont défait le monde nous a rejoint, Cyprien Sinigui, Maître Franck et Nerissa Emani. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
On vous retrouve juste après ça dans quelques secondes.
C'est encore mieux que Mozart.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.